La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous, je suis Florence Vanquali, pasteur à l'église évangélique libre de Toulouse. Et je vous propose cet après-midi une méditation sur l'Avent. Qui aime attendre ? L'attente est une position vraiment difficile à tenir. En général, nous détestons attendre, quel que soit l'événement d'ailleurs, bon ou mauvais. Certains sont dans l'impatience, la frustration, l'agitation même, parce que cette attente est insoutenable. D'autres, tout aussi impatients, se découragent et baissent les bras. J'en connais qui calculent 10 coups à l'avance, alors que d'autres se laissent simplement porter. On verra bien demain. L'attente fait partie de la foi chrétienne. Le chrétien est quelqu'un qui attend le règne de Dieu. La Bible en effet nous livre une promesse. Le Dieu qui nous sauve en Christ n'a pas dit son dernier mot. Et il prépare l'instauration d'un monde autre, un monde entièrement renouvelé par la puissance du Christ. C'est ce qu'on appelle son règne ou royaume dans le Nouveau Testament. La période de l'Avent qui s'est ouverte la semaine dernière est traditionnellement le temps de l'attente, le temps de l'espoir. On se tourne vers le Christ, on prépare la fête de Noël, la fête de sa naissance, mais en parallèle, on médite aussi la promesse de son retour, lui le ressuscité qui règne déjà avec Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Un avant-goût incroyable et bouleversant qui en dit long sur ce que Dieu réserve. Pas seulement ce qu'il nous réserve à nous pour notre bonheur personnel, mais ce qu'il réserve au monde. Une nouvelle création, sans fin, ni larmes, ni cruauté, ni injustice, ni maladie, ni mort, nous dit l'Apocalypse. Ce monde renouvelé, ce royaume de Dieu, c'est la priorité de Jésus. Changez, dit-il, car le royaume de Dieu arrive. Sa vie, ses enseignements, ses miracles proclament la possibilité d'une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, il en pose les fondements lors de sa mort et de sa résurrection. Il meurt à notre place, il ressuscite, pour nous permettre d'avoir part à ce monde nouveau. Il a inauguré cette nouvelle ère, et maintenant il est assis auprès de Dieu, préparant les dernières étapes de réalisation du royaume qu'il a promis. Alors comment attendre ce royaume ? Est-ce qu'on sera découragé ? Est-ce qu'on sera dans l'agitation ? Je crois qu'il y a un indice dans une des prédications de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus parle à ce moment-là de la vie spirituelle authentique et il donne dans sa prédication un modèle de prière que vous connaissez sûrement très bien. Certains la prient 3 fois par jour, d'autres l'ont au moins entendu dans un film ou une série. C'est le fameux Notre Père. Cette prière est tellement riche, on pourrait passer des heures et des jours entiers à la méditer. Mais je crois qu'elle livre aussi quelques indices sur notre façon d'attendre le royaume de Dieu. Alors je vais la lire, mais pas dans sa version récitable, dans une traduction plus récente qui est tirée de la Nouvelle Bible en français courant. Je lis donc le texte biblique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. » Cette prière, c'est la première que j'ai apprise. C'est ma grand-mère qui me l'a apprise quand j'avais encore 4-5 ans, et même si je la connaissais par cœur, il faut avouer que je n'avais pas vraiment réfléchi au sens de cette prière. Et c'est longtemps resté comme ça. Et puis il y a quelques années, on m'a montré que cette prière, en fait, elle avait deux parties. Sa première partie est consacrée aux priorités de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis, il y a une deuxième partie qui est consacrée à nos besoins. Donne-nous le pain, pardonne-nous nos torts, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. D'abord c'est Dieu, et ensuite c'est nous. Un peu comme dans les 10 commandements d'ailleurs, où les 3-4 premiers commandements se focalisent sur notre relation verticale avec Dieu, et puis les autres commandements sur notre relation aux autres. Quand on croit en Dieu, notre horizon s'élargit. Ce n'est plus moi qui suis au centre du monde, c'est Dieu. Dieu est roi, et par la foi, nous le reconnaissons vivant et puissant dans ce monde. Et ça se voit dans la prière, où Dieu prend sa place. Il ne prend pas sa place comme quelqu'un qui va simplement donner des solutions à tous nos soucis. Il prend sa place comme le maître, le roi, dont les projets sont prioritaires. Et dans cette prière, Dieu prend sa place, il prend la première place. C'est légitime, hein ? C'est tout à fait légitime que ses projets prennent le pas sur les nôtres. Car Dieu voit au très long terme, dans l'éternité. Ses plans surpassent en qualité ce que nous pouvons imaginer pour le monde. Qui aurait des plans plus justes et parfaits, plus remplis d'amour et de vérité, plus paisibles ? Donc Dieu voit au très long terme, ses plans surpassent en qualité tout ce que nous pouvons imaginer. Et Dieu a la puissance, les moyens pour accomplir ses plans. Donc c'est logique que ses projets viennent avant les nôtres. Et c'est d'ailleurs une bonne habitude, peut-être que vous avez déjà cette habitude-là, c'est d'ailleurs une bonne habitude de commencer nos prières par Dieu avant d'exprimer nos besoins. Peut-être avec un moment de louange et d'adoration. Dieu, tu es mon sauveur, mon refuge, mon Père. Ou peut-être avec un moment d'intercession centré sur Dieu et sa volonté. Dieu, tu es juste, que ta justice se révèle, que ta paix s'accomplisse, que d'autres puissent te connaître, etc. Dans ce modèle de prière, dans ce Notre Père, Jésus nous invite à vraiment reconnaître Dieu à l'œuvre et à faire la part belle à ses projets. Mais je me demande si ça s'arrête là. Vous voyez, j'ai l'impression que parfois, on traite les projets de Dieu comme des priorités, mais des priorités déconnectées de nos priorités. Si je dois transposer dans le quotidien, je vais vous donner un exemple. À la maison, il y a des urgences. Tout est important, mais il y a des choses qui sont plus urgentes, qui sont nécessaires. Par exemple, vous avez un ado malade coincé au fond du lit. Il faut s'occuper de lui en urgence, en priorité. Et les devoirs du petit qu'il faut vérifier, eh bien, ça attendra. Ou alors, vous avez très envie d'un nouveau sac, mais dans votre budget, vous savez qu'il faut aussi payer les factures d'EDF. Il y a de fortes chances qu'il faille d'abord payer les factures d'EDF avant d'acheter un nouveau sac. On hiérarchise nos priorités en fonction de l'importance, de l'urgence. Mais en fait, les actions dont je viens de parler, elles n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Les devoirs du petit n'ont pas grand-chose à voir avec la maladie de votre ado. Et puis, les factures d'EDF et le nouveau sac non plus. Ça n'a rien à voir ensemble, c'est juste une question de hiérarchie. Et je me demande si parfois, moi la première, je me demande si parfois on ne prie pas pour les projets de Dieu avec foi, zèle, consécration. Et puis après, on referme le chapitre pour passer à nos préoccupations. Comme s'il y avait un projet de Dieu et puis nos projets à nous. Alors on est à fond pour les projets de Dieu et ensuite on passe à nos projets à nous. Mais nos projets sont bien sûr moins importants que ceux de Dieu, mais ils ne sont pas forcément très connectés avec ce qu'on a prié avant. On peut prier pour des choses qui nous tiennent à cœur, bien sûr, comme la santé d'un proche, une offre d'emploi, des relations compliquées au travail, l'éducation des enfants, les rencontres familiales. Et je sais qu'à l'approche de Noël, c'est souvent un sujet tendu. Mais peut-être que Jésus nous invite à aller plus loin, à ne pas simplement hiérarchiser nos priorités, à ne pas simplement reconnaître que les projets de Dieu sont meilleurs et plus importants que les nôtres, mais à changer de priorité. À ne pas faire des prières où Dieu a la première place, mais où il a toute la place. Je crois que quand on commence à prier et quand on commence à se centrer sur les projets de Dieu, on fait des prières de croyants, et c'est très beau. Mais peut-être que Jésus nous invite à aller plus loin et à faire des prières de disciples. Des prières de personnes qui suivent Jésus et qui orientent leur vie sur Dieu. Parce que, franchement, cette deuxième partie, sur moi, sur mes besoins, est-ce que c'est vraiment une invitation à fermer le chapitre des priorités de Dieu pour enfin revenir à moi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une invitation à aligner mes priorités sur celles de Dieu? Et là, le verset pivot, c'est celui qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est au ciel. Que ta volonté soit faite, ô Dieu, dans le monde. » À commencer par mon monde, mon cœur, mes pensées, et donc mes choix, mes relations, mes engagements, mes paroles et mes actions. Oui, que ta volonté soit faite, ô Dieu, dans chacun des domaines de ma vie. Et pour cela, pour que ta volonté soit faite, Dieu, prends soin de moi. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Et Jésus, dans sa prière, nous détaille trois éléments qui nous sont essentiels. La demande à Dieu qu'il nous accorde le pain. Alors le pain, bien sûr, littéral, la nourriture est essentielle, mais on peut voir un petit peu plus large. Le toit, la sécurité, les ressources, la force nécessaire pour pouvoir entrer dans les projets de Dieu, pour pouvoir tenir la course aujourd'hui. Et puis demain, on demandera parce que demain est un autre jour. On demande aussi à Dieu la grâce et le pardon. Dans la plupart de nos chants, dans la plupart de nos expériences spirituelles, on revient à la croix. Et on revient à la croix comme à un lieu de libération, de délivrance, de purification, de renouvellement. Mais si Dieu nous sauve, nous renouvelle, nous libère, ce n'est pas juste pour qu'ensuite on puisse reprendre notre vie comme si de rien n'était. C'est pour que nous puissions entrer libres dans ses projets, pour que nous puissions rester avec lui, que nous puissions œuvrer dans son règne. Et puis la troisième chose, c'est que Dieu puisse nous protéger. Nous protéger des tentations qui nous feraient dévier de notre mission. Donc cette prière, elle se centre sur le règne de Dieu, qui devient pas seulement les priorités de Dieu, mais qui devient notre priorité, et qui demande à Dieu, mais que Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir participer à sa mission. C'est une prière de disciple, et c'est une prière missionnaire, qui montre la mission que Dieu se donne, que Dieu nous donne, parce qu'il nous invite à la faire nôtre, et qui nous permet de demander à Dieu simplement les moyens nécessaires pour l'accomplir. Un peu plus loin dans sa prédication, un peu plus tard dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous donne une sorte de slogan. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Cherchez d'abord, et ensuite, et enfin, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Pourquoi, en tant que croyants, ne le vivons-nous pas spontanément? Bien parce que le règne de Dieu est invisible, donc il est difficile à imaginer. Lorsque nous prions « Que ton règne vienne sur la terre c'est tellement grand, c'est tellement large », ça nous donne le vertige. Et puis, notre expérience présente est souvent tellement prégnante qu'elle nous agrippe et qu'elle garde nos yeux fixés sur ce que nous vivons au point que nous avons du mal à nous en détacher. C'est pourquoi, dans cette prière du Notre Père, il y a comme une rééducation constante à vivre, à traverser, réapprendre sans cesse à élargir notre horizon, à considérer des enjeux qui dépassent ma compréhension du présent. Une rééducation pour apprendre à scruter notre quotidien en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ton règne peut-il avancer dans ce que je vis, dans ce que je connais, dans ce que je suis ?» Vous n'êtes pas obligé de réciter le Notre Père 3 fois par jour, hein. Mais ça reste une prière formatrice qui façonne notre manière d'aborder nos situations, qui nous aide à toujours mieux aligner nos projets, notre vie sur les objectifs de Dieu. Et ne croyez pas que je vous donne des leçons, moi aussi j'ai besoin d'être formée et transformée. Oui, prier à la façon du Notre Père nous engage. Ça nous centre sur les projets que Dieu est en train de réaliser et ainsi ça donne un sens, une orientation à notre vie. C'est un appel à poursuivre le règne de Dieu, à le poursuivre de tout notre être, à viser la cible qu'il nous donne et à nous y investir avec tout ce que nous sommes, nos ressources, nos lieux d'influence, nos occupations, nos talents, voilà, avec tout ce que nous sommes. Alors j'ai pensé à quelques exemples. Mais dans votre vie, ça se manifeste peut-être autrement. Je me disais par exemple que dans l'éducation des enfants, rechercher le règne de Dieu, c'est pas seulement désirer des enfants sages et obéissants, qui font pas de vagues. C'est aussi rechercher des enfants généreux, les éduquer à être passionnés par la justice, passionnés par la vérité. Un autre domaine où nous pouvons rechercher le règne de Dieu, c'est un sujet très sensible, peut-être en particulier avant Noël, c'est le sujet de nos finances. Vous le savez, hein, dans l'utilisation de notre argent, on montre aussi quelles sont nos priorités. Alors qu'est-ce que ça reflète ? J'ai lu récemment le numéro de Croire et Vivre, un magazine chrétien qui est paru donc en novembre, et dans ce magazine, dans ce numéro, on lit le témoignage d'une mère de famille. Alors c'est un témoignage un peu percutant, hein, une mère de famille qui s'est retrouvée veuve avec des enfants et qui a fait le choix de parrainer des enfants avec le SEL, Service d'entraide et de liaison, donc service de parrainage entre autres. Même si elle n'était pas tout à fait sûre de son budget, elle a décidé de parier sur le règne de Dieu, sur l'avancement de sa justice dans le monde. Et elle raconte, hein, son témoignage arrive bien plus tard que le moment où elle s'est retrouvée veuve et où elle a pris cette décision. Mais elle dit que pour elle, c'était une façon de vraiment d'élargir ses horizons. Et c'était aussi un acte de foi, de dire « je veux miser sur la justice de Dieu et je crois que Dieu me donnera les forces, les ressources pour pouvoir agir ainsi. » Alors c'est un exemple, il y en a d'autres. Vous pouvez aussi miser sur l'équitable, hein, acheter moins mais plus juste, ou soutenir des projets humanitaires. Ça peut être... par votre argent, ça peut être par votre temps. Il y a 1000 façons d'investir concrètement dans le règne de Dieu. Et puis, dernier exemple, parce que c'est un domaine qui prend beaucoup de temps et d'énergie, c'est le domaine du travail. Alors, il y a beaucoup d'emplois où on voit assez bien comment servir Dieu et comment être un agent du règne de Dieu, comment participer à son œuvre. Quand on soigne, quand on éduque, quand on œuvre pour la justice, pour la défense des personnes, de leurs droits, voilà, il y a plein de façons. Mais honnêtement, tous les emplois ne sont pas des vocations. Et parfois, c'est difficile de faire le rapprochement entre travail et règne de Dieu. Alors, mon mari vend du fromage, et même si j'espère qu'il y aura beaucoup de fromage dans le monde que Dieu prépare, vraiment, la vente de fromage n'est pas spécialement intrinsèquement une activité qui prépare le règne de Dieu. Mais quand je l'écoute parler de son activité, je me dis qu'il y a tellement de façons dont il peut être témoin de ce règne de Dieu qui vient et même y participer à sa mesure dans son contexte. Ne serait-ce qu'en étant honnête vis-à-vis des clients et de son patron, et c'est pas si fréquent. En étant respectueux de ses collègues, à l'écoute et au service, en étant bienveillant, en tenant sa langue, en étant quelqu'un sur qui on peut compter, qui arrive à l'heure, qui fait du bien à son entourage. Il y a 1000 façons en fait. Et c'est pas si évident que ça d'avoir cette attitude qui prépare le règne de Dieu. Mais je pense que cette attitude-là, quoi qu'on fasse, quel que soit notre métier, quel que soit même notre domaine d'activité, si on ne travaille pas ou si on ne travaille plus, cette attitude-là de respect, de recherche de la justice, d'honnêteté, quoi qu'on fasse, on peut l'adopter. Dans un travail de bureau, de terrain, au lycée, dans nos activités de loisirs, chercher ce qui est juste et qui favorise la paix. Jésus nous invite à ne pas simplement attendre le règne de Dieu en se tournant les pouces, ni à nous agiter dans tous les sens en croyant que tout repose sur nos épaules. Mais il nous invite à le préparer dans notre vie personnelle, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons avec nos préoccupations. Il nous invite à constamment réaligner nos préoccupations sur les projets de Dieu, à reconnaître Dieu comme roi, pas seulement du monde, mais aussi de notre petit monde personnel. Mais ce roi, souvenons-nous-en, ce roi est un roi qui ne se contente pas de nous donner un sens et une orientation. Il prend soin de nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer dans sa direction. Parce qu'il se décrit d'abord et toujours comme notre Père céleste, qui nous connaît, qui nous aime et qui nous conduit.
Mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin. Sois mon soutien, car